Bonjour à ceux que j'ai pas pu dire bonjour. Ce qui est dangereux, des fois, quand on se retrouve le matin à 9h30 pour prier pour le culte, on demande à Saint-Esprit de faire le travail qu'on n'a pas fini. Ça, c'est bien. Mais Luc, ce matin, il a dit, Seigneur, dérange Laurent. Ça dérange que le message qu'il avait préparé, s'il doit être mélangé, ben, qu'il soit mélangé, mais que toi, que tu prennes la place. Je pense que la prière de Luc est exaucée, je suis un petit peu mélangé. C'est bon. Non, c'est vraiment bon. J'aimerais continuer un petit peu par ce qu'on a vécu hier soir, pour vous donner un petit peu quelques témoignages, comment Dieu est bon. Je vais vous des fois les citer des prénoms, des fois je dirais un monsieur, une dame, parce qu'il y a certaines personnes qui désirent être anonymes. Mais un certain Pascal, c'est pas notre Pascal, qui était là hier soir, puis je le connais, ce jeune homme, une vie toute croche, une vie pas facile. Mais il reste fidèle à Dieu, puis avec sa femme, ses deux enfants, troisième qui arrive bientôt. Puis d'un coup, hier soir, vers 8h30, il vient vers moi. Il dit, il faut que je rentre. Je dis, OK, qu'est-ce que t'as vécu? Il me dit, le géant de Dieu s'est réveillé en moi. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'ai laissé un tout petit Jésus en moi. Je dois lui laisser plus de place. Donc j'étais, waouh, super. Un des hommes les plus riches de la ville de Joliette était là hier soir. Puis j'arrive vers lui, puis il connaît très très peu l'église évangélique. Et puis il était ému de voir toutes les générations ensemble. Il a dit, ça m'a fait tellement de bien de voir que c'est possible, que Jésus n'est pas que pour les cheveux blancs, qu'il est pour tout le monde. Un autre monsieur, c'est un de mes voisins, qui est agriculteur, avec qui j'aime bien passer du temps, qui est à la retraite, et puis qui me disait, ben, pendant ces 10 dernières années, tous les jours, il allait trouver sa femme à l'hôpital, alors que sa femme ne le reconnaissait pas. Maladie d'Alzheimer, puis elle est décédée il y a quelques mois. Puis il disait, ma Mariette est retournée vers Dieu. Moi, je continue ma mission sur terre. Puis il disait hier soir, la joie, parce que comme agriculteur, lui, son appel, c'était d'aller plusieurs fois au Mali, aider les chrétiens à pouvoir apprendre à cultiver la terre, à pouvoir que leurs vaches aient de l'herbe, du foin, puis que la vie continue. Puis il disait, au Mali, j'ai eu l'occasion de rencontrer différents chrétiens, mais pas au Québec. Puis hier soir, il est venu, puis il me dit, ça m'a fait, maintenant je peux m'en aller, entre guillemets. Il me disait, je peux rejoindre Jésus parce que j'ai vu la famille de Dieu se rassembler. Donc, Dieu est bon. Dieu est extraordinaire. Puis la question que Michael nous a posée à un moment donné hier soir, c'est « Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ?» Puis il courait avec son micro. Alors, je vais pas faire mon sprint ce matin au milieu de vous, mais je vous invite à y réfléchir. Parce qu'on peut nous la poser comme ça, cette question dans la rue. On peut nous la poser sans arrêt. Puis la semaine passée, moi, je me suis retrouvé devant mon garagiste, c'est pas réel. Et puis j'avais un gros sourire, puis il me dit, ben Laurent, tu me dois 1 300 $. Ouf! J'ai gardé mon sourire, parce que je pense que j'étais préparé. Mais il me dit, mais Laurent, c'est quoi ta joie? T'es bizarre. Il comprenait pas. Et là, en 2 minutes, je lui ai raconté juste ce que je vis avec Jésus. Laurent, est-ce que je peux boire un café avec toi? Donc l'invitation est lancée. Puis après, dans la même journée, je vais à la Société de l'autisme pour Alban, pour lui donner un peu d'aide pour son cégep. Puis je rencontre la directrice, puis elle venait de nous offrir, Alban et moi, 1 heure dans un spa à l'Assomption. C'était magnifique pour Alban et moi aussi. Puis je lui disais, merci beaucoup Marie-Ève. Puis elle me regarde, Laurent, il y a quoi chez toi? Qu'est-ce qui fait que tu es joyeux? Là aussi, j'ai pu lui raconter ma relation avec Jésus. C'est ça ton secret? C'est pas un secret, ça se partage. Alors elle était toute enthousiaste, elle m'a dit, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Donc il y a plein de gens dans la Naudière qui veulent en savoir plus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Puis ce matin, on va continuer avec Exode, on va continuer avec Moïse. J'espère que Solène arrivera à me suivre. Mais t'inquiète pas, c'est encore pas commencé. La question que je nous pose ce matin, c'est, mais est-ce que ta vie avec Dieu, aujourd'hui, te satisfait ou tu veux plus? On va tous répondre, on veut plus de Dieu. Je suis certain. Mais le plus de Dieu nous amène à prendre des risques. Le plus de Dieu nous amène à faire des choix. Et c'est pas toujours facile. On va voir comment Moïse a dû faire des choix. Et puis j'aimerais vous encourager à oser faire comme Moïse, plus. Je vois un ami qui est là ce matin, c'est Sébastien. Merci beaucoup, Sébastien. C'est lui qui a lancé ces idées reliées. Alors, bienvenue, Sébastien Mieux-de-Nous. Sébastien, c'est lui qui, un jour, qui était vers Luc. Luc, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin qu'on se retrouve, les chrétiens, pour la louange. Et Luc en a partagé à d'autres personnes, puis plusieurs personnes sont levées. Mais il a fallu un jour que Sébastien dise, j'ai un besoin, j'ai un rêve, j'ai envie. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse nos envies, nos besoins, on puisse les apporter à Dieu, puis qu'on dise, Seigneur, plus de toi. Alors je continue en vous posant une question que j'ai posée au groupe Ciel, puis personne n'a été capable de répondre. Qu'est-ce que tu vas faire en 2033? Ça rigole, hein? Que vas-tu faire en 2033? Certains m'ont dit, bon, je serai à la retraite, j'espère être grand-papa, grand-maman. D'autres m'ont dit, je sais pas. J'ai pas compris ce que Lise répond, mais que vas-tu faire en 2033? Puis je vais te poser une question plus précise. Que vas-tu faire le 17 avril 2033? On n'est pas supposé, hein, mais je vous dis juste de pas marquer cette date dans l'agenda, dans votre agenda, mais vous préparez. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire et je vous en parle par le petit clip vidéo.
Il y a 2000 ans, un événement a changé le cours de l'histoire, transformant des vies pour l'éternité. Êtes-vous prêts pour célébrer les 2000 ans de la résurrection? Imaginez toutes les nations célébrant Jésus autour du monde. Imaginez les chrétiens unis dans la prière et la louange. Imaginez nos voisins touché par l'amour du Christ. Rejoignez Jésus Célébration 2033.
Ça va être glorieux. On a le temps de se préparer, c'est dans 17 ans et 2 mois. Mais si vous vous souvenez de la peur du bug de l'an 2000, les gens regardaient en Australie qui a le premier fuseau horaire. Est-ce que ça passait? Ben, en 2033, ce 17 avril, le monde entier va avoir chaque heure, chaque demi-heure, des événements qui vont célébrer la résurrection de Jésus. Moi, ça me passionne d'imaginer qu'on va tous sortir de nos maisons. On va peut-être aller dans des parcs, dans des stades, on va peut-être faire une fête dans la Naudière, je ne sais pas. Mais je sais que dans le monde entier, déjà, plusieurs leaders sont dans la prière. Seigneur, c'est quoi ta stratégie? Donc on a 17 ans pour se préparer à donner un bon coup. 17 ans pour dire tous les jours que Jésus est ressuscité. Hein? Mais avant 2033, il y a 2020. Puis 2020, ça c'est les missions du monde entier qui ont le désir que chaque être humain, dans sa propre langue, reçoive un bout de la Bible. Parce que la parole de Dieu parle. Parce que la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu. Donc moi je pense qu'on est dans une saison de vie extraordinaire où Dieu appelle son Église à sortir, à le célébrer et à préparer quelque chose de glorieux pour lui. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? La question de Michael, je nous la pose. Qu'on soit prêt à partager. Dimanche passé, Luc nous a démontré comment Moïse a trouvé la liberté. Comment Moïse a pu passer par-dessus ses peurs pour accomplir le rêve de Dieu. Imaginez, vous êtes berger, vous êtes marié, vous vous occupez donc de moutons. À un moment donné, dans votre travail, vous voyez un buisson qui brûle. Mais ce buisson ne se consume pas. Moïse fait un détour et il se retrouve face à Dieu. Et sa vie est complètement changée. Un détour. Avec une équipe de l'église, cette semaine, on va dans la prison à Joliette, auprès des femmes. on va réfléchir ensemble, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'abandon, comment est-ce qu'on le vit dans nos propres vies? Comment est-ce que Jésus est venu nous rencontrer? Mais la dernière fois qu'on allait en prison, je suis avec une équipe, on a parlé du détour. Puis beaucoup de ces femmes dans la prison m'ont dit « À cause de la prison, ça a un détour de ma vie, mais ça me permet de m'approcher de Dieu. » Il y a 2 semaines, j'ai été voir une compétition de ski à Saint-Côme, extraordinaire, mais j'arrive à Saint-Côme, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un immense accident. Plusieurs ambulances ont dû arriver, c'était dramatique comme situation. Mais moi, je ne savais pas, mais j'ai dû faire un détour. Puis la police me dit « Tu ne peux pas aller tout droit, l'ambulance arrive. » Des fois, les détours dans notre vie, c'est ennuyeux. On n'aime pas trop. Moi, comme chauffeur, j'aime bien aller tout droit. Mais je sais que souvent, Dieu, il va tout droit dans mes virages. Dieu, il parle par nos contours. Le détour nous donne souvent l'occasion de prendre du recul. Et en faisant ce détour, donc, Moïse a rencontré Dieu, ou plutôt Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu a pu lui partager ses intentions. Moïse, enlève tes chaussures. Moïse, c'est un lieu saint. Je veux te dire que j'ai entendu ton peuple, qui est mon peuple, qui crie, qui souffre, qui trouve que c'est difficile d'être en Égypte. J'ai la compassion. Et je t'appelle toi, Moïse, pour que tu puisses quitter tes moutons et aller t'occuper d'un autre troupeau. T'inquiète pas, de temps en temps, ils vont aussi bêler de mécontentement, mais je suis ton Dieu. Et je vais les délivrer, le peuple d'Israël. Ce que Dieu dit à Moïse, j'aimerais que chacune de mes brebis d'Israël puisse trouver la liberté. C'est Exode 6 qui nous dit, c'est pourquoi dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage. Je vous rachèterai avec puissance par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession. Moi, l'Éternel. Ce que Dieu demande à Moïse, c'est « Va, tourne en Égypte, appelle hommes, femmes, enfants, animaux. On va faire une sortie de 3 jours dans le désert. 3 jours où je serai qu'avec vous et ensemble, on va louer Dieu. » Ceux qui ont vécu les 24 heures de louange ici, on a trouvé ça extraordinaire. Mais imaginez environ 2 millions de personnes avec plein d'animaux dans un endroit où il n'y a que vous, que il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut conduire son peuple à un temps d'intimité, à un temps d'adoration. Ça, c'était le plan initial de Dieu. Moïse, demande au Pharaon si tu peux sortir 3 jours. On va y voir un petit bout de film. On regarderait bien la suite. Je vais essayer de vous la raconter. Exode 5, accorde-nous de faire 3 jours de marche dans le désert, Pharaon, pour que nous puissions offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Si vous connaissez votre la Bible, vous savez que le Pharaon refuse, qu'il se met en colère, qu'il ordonne qu'il y ait plus de travaux à faire pour les Israélites. Dans le même délai. Les Israélites sont des esclaves à la merci des Égyptiens. Et les Israélites commencent alors à critiquer Moïse. Moïse, mais qu'est-ce que tu as fait? On était esclaves, mais au moins, on avait un petit peu de liberté, on avait un petit peu de chez nous. Là, depuis que tu as parlé, les situations empirent. La situation empire, pardon. Et j'aime cette réaction de Moïse. Moïse s'est senti déçu, triste, probablement abattu. Mais la Bible nous dit un petit peu plus loin dans Exode 5, 22, il retourne vers le Seigneur. Alors que son bateau est en train de couler dans la tempête, Moïse choisit de marcher vers Dieu. Il ne va pas vers son frère ou vers quelqu'un d'autre proche. Qu'est-ce qui se passe? Non, il va vers Dieu. ça prend du courage. Moïse n'a pas la réponse, mais Dieu a la réponse. Ce n'est pas nous, êtres humains, qui avons la réponse aux problèmes de nos amis. C'est Dieu. Il y a des fois, quand on obéit à Dieu, il y a des fois, on dit, on est tout content, il y a un frein, il y a un obstacle. Et Moïse nous montre, retourne vers Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de la réussite. Ben, si on prend la réussite tellement à cœur, on va faire un burn-out. Ben, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas le nôtre. D'accord? Fais-moi confiance. On est invité à dire comme Jésus dans le jardin de Gethsémané, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Dieu va nous dire, ce n'est pas fini ta mission. Je continue. Donc si j'ai bien compris en lisant le texte, c'est que Moïse se tourne vers Dieu, il y a un face-à-face, et Dieu va commencer à modifier son plan. Et un petit peu plus loin dans le chapitre 5, Dieu va dire à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et c'est sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Il y a quelque chose de plus. Dieu dit maintenant, « Je vais te chasser d'Égypte. » Bientôt, Moïse, tu vas pouvoir retourner avec les Israélites dans le pays promis. Le Pharaon ne vous supportera plus. Il vous chassera. La promesse faite à Abraham va se réaliser. Tu vas habiter dans le pays de Canaan. Donc Dieu invite Moïse, les Israélites, les animaux, à une super fête de 3 jours. 3 jours de louange. Et j'ai réalisé à nouveau que la louange, c'est quelque chose de très puissant. Que c'est le moyen de Dieu de nous rencontrer, alors que nous, on choisit de se tenir devant lui. C'est notre lâcher prise. Dans la louange, on est là, on chante, on loue Dieu, puis Dieu prend le relais. Dieu ouvre le chemin. C'est notre confiance en Dieu qui fait vivre les miracles. Dieu connaît tout de nous. Il sait ce qui nous tient captifs, ce qui est difficile en nous. Mais la louange permet à Dieu de faire sauter nos chaînes, nos verrous. Alors, amis, j'aime vous voir présents à 10 heures à l'église. Je vous encourage. Dès le début, on se retourne devant Dieu et on le loue. Merci, Véronique, Mario, Réal, Anne, Luc, Sylvain, Nathalie, Ben, Gaëtan et toute l'équipe qui prépare la louange. Merci de nous permettre d'arriver, dire « Seigneur, je veux aller plus loin. » Puis j'ai envie de dire ce matin que louer Dieu, ce n'est pas marchander. On ne dit pas à Dieu « mais je te loue ce matin, mais alors après tu me donnes quelque chose au retour, d'accord ?» Dans la louange, on ne va pas commencer à dresser toute une liste de nos besoins, de nos désirs. Louer Dieu, ce n'est pas la potion magique, ce n'est pas le médicament miracle. C'est dire à Dieu qui il est, malgré nos circonstances. Hier soir, dans la louange, Michael me fait rappeler, t'as vu le courriel? Puis je le savais, mais les choses ont changé. Nos amis Guy et Joël Zeller, leurs enfants sont missionnaires, c'est les responsables mondiaux des fabricants de joie. Et puis, ils sont actuellement à Tahiti, pas mal, hein. Ils sont pris une année un peu plus dans le Pacifique pour réveiller, je dirais, le ministère de Dieu parmi les familles et les enfants. Et puis, à Tahiti, ben, les communications sont pas très bonnes, mais bref, ils ont reçu un message que le papa de Joël a fait un double crise cardiaque, et puis que maintenant, à l'heure où je vous parle, ils sont dans l'avion de retour pour, si possible, voir encore le papa de Joël encore en vie. Elle me disait encore, Joël, hier soir, parce qu'on a pu se parler, quoi, s'écrire en direct, elle me disait, ben, on a pu, toute notre famille, on a pu dire au revoir à papa. On était en Tahiti. Donc, elle me disait, mais je continue à louer Dieu. Louer Dieu pour qui il est, et non pas en dépendant de nos circonstances. Alors merci de prier pour nos amis Guy et Joël, parce que c'est compliqué, c'est pas tout facile. Le papa s'appelle Claude, il a découvert Jésus, il était à 2 semaines de sa retraite, il se réjouissait pleinement. Puis là le médecin lui a dit, tout est fini quoi. On va débrancher Claude, peut-être quand Joël va arriver, et Guy, ou peut-être il va peut-être mourir juste avant. La bonté de Dieu se met en marche quand on le loue. Ce que j'ai réalisé, c'est quand je suis dans la présence de Dieu avec vous tous, le moment de café qu'on prend, j'ai l'impression que c'est chaque fois des anges de Dieu qui viennent vers moi. Vous, on s'encourage. Parce qu'on a vécu quelque chose de fort, on veut le partager. Alors, on est des beaux anges. Nos ailes sont magnifiques. Plus que ça. Je crois que Moïse est un exemple de ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. L'Égypte, c'est tous les obstacles qui nous écrasent de notre relation avec Dieu. Ce qui nous prive de liberté. Et Jésus, je veux vous dire, je vous rappelle qu'il est venu nous délivrer non seulement de la mort éternelle en mourant sur la croix, mais il est venu nous mettre à part. Il est venu créer son peuple, son Église. Puis l'Église, c'est pour, c'est quoi comme but ? C'est un but d'entraide. On s'encourage. C'est aussi un lieu où on grandit. Vous savez, quand on se tient serré, qu'est-ce qui se passe ? Mes pointes, là, où je ne suis pas encore tout à fait sanctifié, ben, mettre tout près de mon frère, de ma sœur, ça permet de s'arrondir. L'Église, c'est ça. On se tient serré. On s'encourage. La passion de Dieu, c'est de nous rendre libres. Il n'est pas effrayé par ce qu'il voit dans nos vies, mais aussi à l'extérieur de nos vies. Et comme l'a si bien rappelé Luc dimanche passé, Dieu ne nous appelle pas ses esclaves, mais ses amis. Ses amis. Dieu révèle ses intentions à ses enfants de ce qu'il veut faire. Dieu veut partager avec nous son cœur. Dieu dit, je cherche un partenaire. Et j'aimerais te défier cette semaine de mettre sur ton miroir ou à une place dans ton garde-robe, si tu as vu le film War Room, en gros, Dieu et moi. Dieu et moi. Comment tu peux entrer en partenariat avec Dieu cette semaine ? Puis Dieu, avoir Dieu comme partenaire, c'est extraordinaire parce qu'il est fidèle, il est drôle, il est aimant, il pardonne, il est constant. On connaît tous la chanson, on va sauter la vidéo, Solène. Let my people go. Go down, Moses. Let my people go. Ça, c'est le cri de Dieu pour chacun d'entre nous. Laisse aller mon peuple. Mais entre la mission de Moïse qui est allée vers le Pharaon pour ses 10 plaies qu'on va voir dans un petit moment, et le cantique de Myriam qui dit, mais merci Seigneur, parce que Pharaon et son élite ont plongé dans la mer, ont été noyés. Il y a les 10 plaies. Il y a les combats. Il y a la résistance du Pharaon. Il y a Dieu qui offre son salut. Dieu prend l'initiative. Les Israélites ont besoin d'une force pour se sortir de l'Égypte. C'est pas facile. Puis au travers des 10 plaies, donc Dieu va montrer petit à petit sa puissance. Et le peuple de Dieu, les Israélites, vont commencer à se réveiller. Leur foi va augmenter. Quand Moïse est venu la première fois parler, les Israélites ont critiqué. À la fin, ils étaient tous contents. Ouais, Dieu est grand. Il s'est passé quelque chose. Dieu ne nous retire pas du monde, mais il nous préserve du mal. Il veut que son ciel envahisse la terre. Il veut que son levain, petit, infiltre toute la société. Puis le levain de Dieu, c'est souvent nous. Donc, allons avec confiance. Je crois que Jésus veut plus qu'une survie de l'Église au milieu des Égyptiens. Il veut plus que ça. C'est Bill Johnson qui le dit, chaque conversion pile l'enfer. Chaque miracle détruit les œuvres du diable. Chaque rencontre avec Dieu est une invasion du Tout-Puissant dans notre monde désespéré. Et je crois qu'comme Église, on est un groupe qu'on est destiné à faire des œuvres plus grandes que Jésus sur terre. Jésus n'est pas venu dans la loudière. Nous, on y est. La présence de Jésus est là, au travers de nous. J'aimerais vous défier que Dieu et moi, dans le post-it cette semaine, que si Dieu n'est pas présent sur la place publique, notre message n'a aucun sens. Observons nos impossibilités cette semaine, s'incliner devant Jésus. Comme Moïse face au peuple, comme Moïse en Égypte, comment tu vas faire Dieu ? Puis on va voir que le chemin s'est ouvert. au travers des 10 plaies. Alors, là où on dit que c'est impossible, on dit « Seigneur, je crois que tu es possible ». Moïse qui fait face au Pharaon, qui fait face au dieu égyptien, ben c'est un pays démoniaque. On a vu dans un petit bout dans le film, la Bible dit aussi, que le Pharaon était entouré de sages, de magiciens, d'astrologues, de sorciers, de sages, mauvais sages, d'accord ? Puis pendant les 9 plaies, le Pharaon fait de la résistance. À un moment, il va dire « Oui, Moïse, tu peux partir !» À d'autres moments, il dira « Non. » Il joue un petit peu au yo-yo. Mais Moïse continue, persévère. Il y a quelque chose de choquant, peut-être, quand on lit les 10 plaies, c'est que c'est marqué que Dieu fait que le Pharaon s'obstine. Que le cœur du Pharaon s'endurcisse. D'autres versets nous disent que c'est le Pharaon lui-même qui s'endurcit, qu'il se montre obtus, borné, bouché. Ça m'a choqué. Est-ce que Dieu veut pas, Dieu a-t-il pas un plan de salut pour le Pharaon? Ok, t'es mauvais, je te stasse. Qu'est-ce que Dieu nous dit par là? J'ai cherché, j'ai prié, j'ai lu, puis je vous donne un petit peu où je suis arrivé. Peut-être ça va changer, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Quand un pays veut attaquer un pays, quand un homme veut abattre son ennemi, c'est toujours une attaque surprise. Il se donne les moyens pour que ce soit rapide, efficace. Je t'ai eu. Par surprise, j'ai gagné. Dieu, lui, au travers du Pharaon, il l'avertit 10 fois. 10 fois, il lui donne du répit pour se repentir. 10 fois, Dieu fait grâce au Pharaon. Dieu a la volonté que tous les Égyptiens sachent que Dieu est Seigneur. Même si Pharaon s'entête, s'obstine, reste fermé, les Israélites vont pouvoir sortir de la captivité, parce que rien ne peut résister à Dieu. Donc Dieu a fait une chance à Pharaon. Si Dieu a aussi endurci le cœur du Pharaon, j'ai compris que Dieu avait le désir que tous les Égyptiens ne se confient plus dans leur propre Dieu, mais qu'ils puissent connaître eux aussi la libération. C'est par amour des Égyptiens qui ont durci le cœur du Pharaon. Et quand j'ai lu Romains cette semaine, Romains 9, verset 18, « Dieu est libre ». Ce petit bout-là, ça m'a montré que Dieu est au-dessus de nos propres imaginations, au-dessus de nos propres schémas. Que Dieu veut toujours le même but, il veut libérer les êtres humains. L'amour de Dieu est indiscutable. Si Dieu n'était pas libre de choisir sa méthode, Dieu ne serait plus un vrai Dieu. Dieu serait sous notre contrôle. Donc le but de Dieu, c'est de donner aux Israélites, comme aux Égyptiens, la liberté de le rencontrer. L'heure passe très vite, donc je ne vais pas parler toutes les 10 plaies. Mais les 10 plaies, Gaëtan le savait, les 10 plaies, en fait, c'est une attaque contre chaque divinité égyptienne. Tu peux juste montrer les photos solennes des 10 plaies. Le Nil, ce qui permet, donne de l'eau, qui permet aux légumes, aux fruits de pousser, d'abreuver le bétail, transformer en sang. La grenouille, je ne sais pas si vous le savez, pour les Égyptiens, c'était la déesse Ikit. La grenouille, c'est celle qui était censée protéger de tout mal les Égyptiens. Dieu envoie des milliers de grenouilles qui ne les protègent plus à ce moment-là. Les moustiques, c'est des maladies. On le voit ces derniers jours dans les médias avec le virus Zika. Se faire piquer par des moustiques, c'est pas forcément toujours agréable. Pas vraiment. À partir de la 4e plaie, il y a une séparation. Les Israélites ne subissent plus rien. Ils sont protégés. Les mouches vénéneuses arrive. C'est quoi? C'est un petit peu, en quelque sorte, ce qui apporte le paludisme. Après, c'est la peste du bétail. La peste du bétail, elle vient infecter, je dirais, les tracteurs, les machines, tout le bien des Égyptiens pour aller dans les champs. J'ai trouvé cette semaine dans le dictionnaire qu'au 18e siècle, en Europe, il y a à nouveau cette maladie qui est arrivée. Elle a tué en moins de 20 ans plus de 200 millions de taureaux. Juste des taureaux. Puis c'est à ce moment-là que les gens ont dit, on pourrait peut-être créer une école de vétérinaires. Donc ça vient d'une situation difficile. Les ulcères, c'est une sorte de lèpre. C'est quelque chose de contagieux. Et ça provoque surtout l'isolement. Et intéressant qu'à ce moment-là, quand l'ulcère arrive comme plaie, les mages, les sorciers du pharaon, qui sont censés représenter le dieu de la médecine, dieu de la santé, sont eux-mêmes touchés. Et ne peuvent plus aller devant le pharaon. Après, voilà une autre plaie, c'est la grêle qui détruit les animaux, la nourriture dans les champs. Les criquets qui vont manger, ensuite tout ce que la grêle et la foudre n'ont pas détruit. Et pour un Égyptien, imaginez, c'est le paradis d'habiter en Égypte. La terre est fertile, c'est extraordinaire. On se lève, on prend des légumes, c'est abondant. Et de voir tout d'un coup leur pays devenir une terre de désolation, ça doit être terrible. Et à ce moment-là, même les serviteurs du pharaon disent « Mais pharaon, t'as pas compris ? Laisse partir le peuple. Qu'est-ce qui va encore nous arriver ?» Puis les pharaons disent « Ben ok, on va laisser partir seulement les hommes. Mais les femmes et les enfants, les animaux, vous restez là. » Moi, ça montre que dans notre société, on fait pas tellement mieux. Très souvent, on dit « Mais non, les enfants, faut pas les forcer de les faire venir à l'église. » Non, 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 ils sont fatigués. Ils ont beaucoup de devoirs. Faisons attention, chers parents, grands-parents. Prions pour nos enfants. Prions. Prenons l'exemple de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Nos enfants ont besoin de nous. On a besoin d'eux aussi. Les ténèbres, ça va durer 3 jours. Là, c'est les Égyptiens, ils adorent le dieu Ra, le dieu soleil. Imaginez, vous êtes en constante adoration devant le dieu Ra, tout d'un coup, 3 jours de nuit. Il y a un problème. La 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés. Et là, Pharaon va se rendre sans condition. Ce que Dieu avait prévu pour son peuple, c'était bien plus grand que l'imagination des Israélites. Il voulait leur enlever leur peur d'être déçus. Ils n'étaient pas bien comme esclaves, mais en fait, ils sont habitués. Ils sont habitués à leur médiocrité. Leur autosatisfaction, c'est devenu une sorte de vertu. Je sais, c'est dur, mais c'est comme ça. J'y peux rien. Je continue. Puis j'espère qu'un jour, il y aura un changement, mais j'y crois pas trop. Ils n'étaient pas prêts, les Israélites, à faire de la place aux preneurs de risques dans leur vie. Et nous-mêmes, des fois, on n'est pas prêts non plus. Un changement, non. Ça va trop me coûter. Ça va être trop difficile. C'est comme mon médecin qui n'est pas lu que cette semaine me dit « Laurent, peut-être que tu es en train de commencer à faire du diabète. » Ouf, mauvaise nouvelle. Je sais que je devrais changer certaines choses de ma vie. Mais ça va me coûter. Mais je veux cette liberté. On sait pas trop comment les Israélites ont réagi face à ces 10 plaies qui s'accumulaient devant leurs yeux. En tout cas, ils ont vu le courage, la ténacité, la fidélité, l'obéissance de Moïse. Prions pour notre pasteur, Luc, et sa femme. Quand ils nous disent quelque chose devant, ils le disent avec amour, des fois en tremblant, mais ils savent quelque chose de bien pour nous. Ils sont appelés à discerner des choses de notre vie. Nous aussi, on peut avoir cette relation directe avec Dieu. Donc n'attendons pas de Luc et Lise qui nous disent tout. Ce n'est pas ça. Mais je dirais, prions pour eux. J'ai envie de dire, comme chrétien, en 2016, ne faisons pas l'erreur de chercher le perfectionnisme, mais applaudissons la passion et l'effort. Parce que là, la passion et l'effort, on va peut-être faire des erreurs. Mais c'est correct. On va pouvoir se relever, on va pouvoir continuer. Toute résistance au changement, mes amis, c'est une résistance à la nature même de Dieu. Dieu s'appelle le Créateur et non la tradition. Alors voulons-nous en 2016 une vie de satisfaction, d'autosatisfaction? Les Égyptiens sont là, mais c'est correct, je me suis habitué. Ou est-ce que je veux une vie plus de Dieu? ce que nos pères et mères spirituels ont fait dans le passé, c'est largement insuffisant pour nous aujourd'hui. Dieu veut plus. Comme disait Thierry Juvet à la retraite de notre église, que mon plafond, que notre plafond devienne le plancher de notre jeunesse. Les Israélites ont vécu au milieu des deux Égyptiens et cela a influencé leur journée. C'est quoi nos dieux égyptiens québécois? Je ne veux pas faire toute une liste, il y en a tout plein. Mais je dirais, un des derniers, je dirais pour moi, c'est l'aide médicale à mourir. Je peux choisir maintenant quand je veux mourir. C'est terrible. Nos dieux égyptiens vont endormir notre conscience, vont endormir notre foi. Dieu veut plus que ça. L'histoire des Israélites a changé parce que Moïse a été d'accord de se salir les mains. Est-ce que je vais me salir les mains pour mon voisin, pour ma famille, pour ramener la liberté? Si un jour je reçois un héritage énorme, puis j'ai envie d'acheter un diamant à Patty. Je sais que ça n'arrivera jamais, mais il ne faut pas lui dire, d'accord? C'est le travail maintenant, mais j'imagine très bien qu'un jour je vais chez le bijoutier, je vais le joaillier. Bonjour, j'aimerais vous acheter un diamant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me sortir le diamant, s'il en a un. Il va le mettre sur le diamant sur une sorte de tapis noir pour que le diamant resplendisse. Waouh! Il est tellement brillant que j'ai envie de l'acheter. Notre monde, souvent, est difficile. Parfois, on dirait que l'obscurité, elle est là. Mais Dieu, il a choisi de mettre l'Église sur cette obscurité. L'Église, ça brille comme le diamant. Ça amène toute une différence. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors ma prière cette semaine, c'est que nous puissions être libres. Libres de nos faux dieux. Libres des dieux égyptiens qui ont contaminé notre vie québécoise. Jésus est venu aussi apporter la liberté. Dieu et moi, que va-t-il se passer? Dieu s'engage et veut détruire tout ce qui n'est pas sa gloire. Et je vais terminer quand même par une petite vidéo. Vous allez voir, c'est tout simple. S'il y a un homme et un étudiant qui voit un sans-abri, un SDF, puis il s'approche. Puis j'aimerais nous défier que ce soit nous cette semaine. Que ce soit nous cette semaine qu'on fasse le pas d'ouvrir les yeux vers quelqu'un qui a besoin de notre famille autour de nous, puis qu'on s'approche. Puis qu'est-ce que cet étudiant a fait? Ça m'a simplement touché. Puis j'aimerais terminer par cette vidéo. Après, ceux qui veulent demander la prière, disent « Seigneur, moi je veux être libéré des dieux égyptiens. Moi je veux faire plus, je choisis de faire plus avec Dieu. Je veux pas d'autosatisfaction. Je veux plus. » On s'avance et l'équipe de prière pourra venir. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci parce que tu es un Dieu libérateur. Merci parce que les dieux égyptiens ont été mis à terre et nos dieux, faux dieux, vont être mis à terre aussi dans nos vies. Tu veux nous qu'on soit libres. Et Seigneur, je te prie pour qu'on ait une soif de toi et qu'on soit prêt à témoigner. Qu'est-ce qui nous rend joyeux? Qu'est-ce qui fait de nous, qu'est-ce qui espère en nous? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Seigneur, merci pour chacun de mes amis ici. Je te prie de poser ta main sur chacun et que tu libères et que tu amènes ton royaume. Que le ciel, ton ciel envahisse nos vies, nos voisins, nos familles, nos collègues de travail. Merci Seigneur. Amen.